L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, au Canada, une affaire de pipeline ou pipeline, comme disent les Canadiens, quand l'acheminement du pétrole divise deux provinces. En Suisse, on verra pourquoi la polémique est repartie de plus belle sur les coûts de la santé. Dans l'actualité francophone également, de nombreux humoristes africains réunis à Paris à la recherche d'un nouveau public. La Belgique qui remonte le temps en célébrant l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Enfin, nous entendrons des Français heureux, ça existe, ravis des températures estivales et du soleil tant attendu qui règne en ce moment sur la France. Voici l'actualité francophone, bienvenue à tous. Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine, c'est un homme qui a vu une longue saga judiciaire prendre fin.
Oui, il s'appelle Gérard Comeau, c'est un résident de la province du Nouveau-Brunswick. Il avait reçu une amende pour avoir eu en sa possession plusieurs centaines de bouteilles d'alcool achetées au Québec, ce qui est interdit par les lois qui régissent le commerce dans chaque province. Il a porté sa cause devant les tribunaux et la Cour suprême a tranché. Les lois actuelles ne sont pas inconstitutionnelles. Cette décision est donc un revers pour ceux qui plaidait en faveur de la libre circulation de l'alcool au Canada.
En Suisse, Pierre Anchauffat, gros plan cette semaine sur l'héritier de Jean-Claude Givelle.
Un chirurgien passionné d'art décédé il y a 3 ans qui s'était constitué une jolie collection. Or, son héritier a cédé quelques toiles au canton de Vaud, en l'occurrence au musée des Beaux-Arts qui rouvrira l'année prochaine dans un tout nouvel écrin. De fait, le conservateur a pu choisir 6 tableaux dans la collection car il ne s'agit pas d'une véritable donation. Ces 3 Félix Valeton, ces 2 Louis Souterre et ce Giovanni Giacometti servent à payer les droits de succession sur la fortune du chirurgien. Un bon deal pour les futurs visiteurs du nouveau musée.
En Belgique, Camille Toussaint, la candidature d'un juif ultra-orthodoxe aux élections communales d'Anvers a provoqué une levée de boucliers.
Mais oui, et cet homme, Aaron Berger, a été invité par le CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand, à figurer sur la liste des élections communales à Anvers. Anvers, pour l'instant dirigé par les nationalistes flamands. Alors le CD&V, emmené par un poids lourd du gouvernement fédéral, a voulu séduire l'importante communauté juive de la ville en le proposant sur sa liste. Mais il y a un hic, Aaron Berger est juif ultra-orthodoxe et certains de ses principes, comme refuser de serrer la main des femmes, ont choqué. De plus, on apprend qu'il a été reconnu coupable de vol en mars dernier. Sa candidature devenait insoutenable. Finalement, mercredi, le parti a annoncé qu'il se retirait de la liste mauvaise pioche pour le parti chrétien.
En France, c'est une belle quinquagénaire qui a fait la une cette semaine. La Maison de la Radio, 100 000 mètres carrés, inaugurée par le général de Gaulle en décembre 1963. Cette maison ronde est désormais inscrite aux monuments historiques. Ça signifie qu'elle est protégée de toute démolition ou transformation hasardeuse. Ça concerne plus précisément les façades, le grand hall d'entrée, le célèbre studio 104, également quelques boiseries de palissandre. La Maison de la Radio accueille plusieurs radios du service public, dont France Inter, mais aussi 2 orchestres, 1 philharmonique et 1 orchestre national de France, dont la réputation est reconnue un peu partout dans le monde. Le portrait de la semaine sur RFI, Edouard Dupenouat, c'est une diva burundaise devenue membre du jury du prochain Festival de Cannes.
Et c'est la chanteuse Kadjanine, de son vrai nom Janine Rema. Elle s'est fait connaître à l'international en 1995 avec un tube Sambolera. Elle a mis un terme à sa carrière au début des années 2000. Alors elle est née au Burundi, elle s'est ensuite installée en Belgique et aujourd'hui elle vit entre Monaco et le Mali. Est-ce qu'elle fait de la musique noire? Est-ce qu'elle fait de la musique blanche? Elle a une réponse toute trouvée, de la musique café au lait, dit-elle. Et elle rejoint donc le jury très féminin du Festival de Cannes. Ce sera le mois prochain.
Oui, ce sera précisément du 8 au 19 mai, le Festival de Cannes qui est présidé cette année par l'actrice australienne Kate Blanchett. Au Canada, Benoît Audet, encore une polémique dans les relations interprovinciales. Ça concerne l'acheminement du pétrole qui oppose 2 provinces de l'ouest du pays.
Oui, l'Alberta, province productrice de pétrole, et sa voisine, la Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest au pays qui borde le Pacifique. C'est un conflit au sujet d'un pipeline qui envenime les relations entre les 2 provinces. L'Alberta veut développer de nouveaux marchés pour son pétrole des sables bitumineux. Elle veut donc qu'un nouveau pipeline vers le Pacifique voit le jour aux côtés d'un pipeline déjà existant. Mais le gouvernement de la Colombie-Britannique y est farouchement opposé pour des questions environnementales. La province dit qu'elle devra assumer tous les risques sans en retirer de bénéfices.
Et Benoît, ce conflit ne touche pas que les deux provinces en question. Le gouvernement fédéral est directement interpellé.
Oui, le premier ministre Justin Trudeau se livre à un véritable jeu d'équilibriste depuis le début de cette affaire. D'un côté, il se présente comme un grand défenseur de l'environnement et de l'autre, il ne veut pas s'aliéner les acteurs économiques et les électeurs de l'Alberta largement favorables au projet. Quoi qu'il en soit, le gouvernement Trudeau est en faveur du projet de pipeline. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta pourrait même investir directement dans le projet. Il semble donc que le nouveau pipeline verra le jour. Ce qu'il reste à voir, c'est le prix politique qui sera payé par chacun des acteurs dans cette histoire.
En Suisse, la polémique sur les coûts de la santé est repartie de plus belle cette semaine avec cette idée d'augmenter fortement, jusqu'à 10 000 francs suisses, la franchise déboursée par le patient. On voit ça avec vous, Pierre-Henri Chauffard.
Oui, imaginez payer de votre poche vos factures de médecins, de médicaments, d'hospitalisation jusqu'à un montant global de 8 500 euros. Ce n'est qu'ensuite que votre assurance maladie obligatoire prendrait le relais. Cette idée, pour le moins provocante, est signée de la directrice générale de la Chrétienne sociale, la première caisse maladie du pays. En Suisse, pas de sécu, on est habitué à payer cash entre la prime par tête, la franchise sur les premiers soins et la participation sur les prestations médicales. Les assurés financent de leur poche le quart des coûts de la santé.
Et que cherche l'assureur avec cette dernière proposition ?
Eh bien, disons que la concurrence entre les caisses pour l'assurance obligatoire des soins n'a pas empêché les primes d'augmenter de près de 5% année après année. Le but est donc d'abord de responsabiliser davantage le patient. S'il doit payer de sa poche, il renoncera à consulter au moindre bobo, selon la Chrétienne sociale. Cela permettrait par conséquent de freiner la hausse régulière des coûts de la santé et de baisser en parallèle les primes de l'ensemble des assurés. Les bien portants y gagneraient au change.
Et les relations, les réactions ont été donc très vives chez vous en Suisse.
Oui, parce que cette solution, elle remettrait en cause la solidarité entre les assurés en bonne santé et les malades. Cela dit, ce ballon d'essai prépare le terrain pour une augmentation sans doute plus raisonnable des franchises. Le gouvernement avance déjà sur ce terrain. En clair, en Suisse, chaque habitant continuera de payer très cher pour la qualité de son système de santé.
L'actualité francophone vue par la radio France Internationale, RFI, Édouard Dupenoit, ça concerne les humoristes africains francophones à la conquête d'un nouveau public.
Ils viennent effectivement de Côte d'Ivoire, du Niger, du Gabon, du Cameroun et même de République démocratique du Congo. C'est en fait toute une bande qui a débarqué à Paris ces jours-ci pour un spectacle d'humour 100% africain. Ils sont souvent des stars dans leur pays d'Afrique de l'Ouest, que ça soit sur scène, au cinéma ou à la télévision, comme l'Ivoirien Michel Gohou par exemple, mais ils sont beaucoup moins connus dans les autres pays francophones.
On était connu aussi au niveau de la diaspora africaine. On est connu, mais on cherche maintenant un autre public, à atteindre un autre public. Il faut maintenant arriver à dépasser la frontière africaine. La lutte, elle est lancée déjà. Et je crois que nous sommes à mi-chemin.
Dépasser les frontières, bien sûr, l'humour n'a pas de barrière, il a encore moins besoin de visa. Le rire est universel, nous dit Mamane, qui fait partie de la troupe et qui est aussi chroniqueur chez nous sur RFI.
Aujourd'hui, les Africains, on ne nous appelle plus Africains. Ici, en Europe, c'est migrant. On veut montrer donc qu'on est autre chose. On est des humoristes et on donne notre vision de la migration. Des Africains qui vivent en Afrique, qui travaillent en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, pas besoin d'être Africain pour apprécier Youssou N'Dour, pour apprécier Tikenja. Pour les footballeurs aussi, Samuel Eto'o, Drogba, tous ces gens jouent partout. Et aujourd'hui, c'est le moment de l'humour.
Alors le coproducteur du spectacle, l'humoriste français Jérémy Ferrari, insiste de son côté sur une histoire et une culture commune. En fait, ils en sont tous convaincus, les talents du continent africain vont faire rire tout le monde francophone.
Cette semaine en Belgique, Camille Toussaint, on a remonté le temps, 60 ans en arrière, la Belgique s'est remémorée à un événement de taille.
Mais oui, car le 17 avril, il y a 60 ans, le roi Baudouin tenait ce discours.
Je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958.
Et c'est donc le roi qui inaugurait en 1958 l'exposition universelle de Bruxelles, qui était la première expo de ce type organisée après la Seconde Guerre mondiale. Pendant 6 mois, elle a accueilli des visiteurs du monde entier qui ont découvert les pavillons tenus par les différents pays, la Belgique ayant évidemment une place de choix avec l'imposante Atomium qui est toujours sur pied aujourd'hui. L'exposition est un véritable succès donc, mais ce que l'on connaît moins, c'est l'un des facteurs de cette réussite. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière et s'imaginer dans le parc rempli, mais pas trop, avec les nombreuses hôtesses qui avaient été engagées pour l'occasion. Un matin, l'expo est quasiment vide car c'est jour de vote en Belgique et 8 d'entre elles décident de prendre un bain de soleil sur le toit d'un des pavillons. Et là, elles sont surprises par un photographe en hélicoptère et les photos font le tour du monde. Les organisateurs sont furieux, mais les visiteurs, eux, affluent de plus belle. Gérard Vallet couvrait l'événement pour la RTBF à l'époque.
Le résultat a été absolument non prévu. C'est que la presse internationale s'est ruée sur cette histoire d'hôtesse en petit costume au-dessus du Palais 10. Tous les journaux européens en ont parlé et ça a commencé, nous avons commencé à recevoir énormément de journalistes étrangers. Donc ces malheureuses qui ont perdu leur job mais qui ont gagné leur procès par après, j'en étais fort content, ont servi terriblement la cause de l'exposition.
Et c'est ainsi que Bruxelles a attiré 42 millions de visiteurs. À titre de comparaison, on peut voir qu'à Milan, pour la dernière exposition universelle, il y a eu 20 millions d'entrées.
Et on termine cette séquence francophone avec une carte postale qui vient de France, car cette semaine, les Français ont été particulièrement sensibles aux températures enfin estivales, du beau temps partout, et ça dure comme ça depuis plusieurs jours. Carte postale envoyée par des Français heureux de se balader sur les bords de la Marne, en région parisienne.
Ah bah moi, ça me met de bonne humeur. Ah oui, complètement.
Et quand je vous annonce qu'il fait 30 degrés là, dans les jours qui viennent ?
Moi, j'ai jamais trop chaud. Froid, oui, trop chaud, jamais.
Alors bien sûr, on l'attendait avec hâte, ce soleil. Les gens, là, depuis le week-end dernier, ressortent. On les voit beaucoup se balader, notamment le long de la Marne.
Hier, j'ai repris le sport. Ça faisait au moins 6 mois que je n'avais pas mis les pieds sur les bords de Marne pour courir, en tout cas.
Ça donne envie de faire des choses comme le vélo, les trottinettes et tout ce qui va avec.
Voilà, avec le chant des oiseaux en prime. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, de RFI, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, même endroit, même heure.